sommes heureux d'accueillir ce soir Monique de Hadjetlatché. Merci Madame de Hadjetlatché d'avoir accepté notre invitation pour nous parler d'un thème qui nous concerne tous, bien vieillir. On vieillit dès aujourd'hui, dès cet instant.
On n'entend pas bien, monsieur.
Vous n'entendez pas bien, voilà. Donc si au premier rang on n'entend pas bien, on va avoir du mal pour la soirée. Comment ?
Ah oui, il faut le dire.
Oui, mais le noir c'est pour l'enregistrement. Donc bien vieillir, c'est un sujet qui nous concerne tous, puisque dès cet instant on vieillit, à chaque seconde qui passe évidemment, hein, mais évidemment ce qui nous concerne le plus c'est cet âge que tout le monde craint plus ou moins, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le troisième ou quatrième âge, et il est temps de s'y préparer, et Monique de Hadjetlatché rappelle très justement hein, que s'y préparer c'est dès son plus jeune âge. Alors Monique de Hadjetlatché est psychiatre et psychanalyste. Et donc, elle a écrit cet ouvrage très récemment pour aider, justement, et donner quelques pistes pratiques hein, de son expérience aussi, pour aider donc à préparer cet âge si souvent redouté. Voilà, donc je vous laisse la parole. Je rappelle que les rencontres au coin du livre, c'est toujours le même principe, à peu près 20 minutes d'exposé de la part de notre invité. Et puis, après quoi, nous aurons un temps de questions, d'échanges, de discussions, je l'espère, suffisamment libre pour que chacun, ou en tout cas une grande partie de l'auditoire, puisse s'exprimer. Voilà, je vous laisse la parole.
Ça marche ?
C'est bien, Franck. Très bien. Bon.
Alors, si ça marche... Vous entendez suffisamment ? Oui, ça va ?
Ça va.
Alors, bonjour. L'autre jour, j'ai lu une devinette. Qu'est-ce qui fait le plus plaisir aux enfants et que on redoute par la suite ? Alors, qui trouve ? L'anniversaire. Peut-être j'ai un peu déformé, mais en gros, c'est ce que ça dit. Hein ? Les enfants sont tout heureux de grandir d'un an et qu'on fête leur anniversaire. Et puis les adultes, de temps en temps, n'ont pas trop envie de les fêter. Et ils ont bien tort, parce que je trouve que c'est super de les fêter, quel que soit l'âge que l'on a. Alors... vous voyez, je suis rentrée dans le troisième âge déjà depuis quelques années. Et si j'ai écrit un livre à ce sujet, peut-être je vais commencer par là. J'avais pas pensé que j'écrirais quelque chose, et encore moins sur ce sujet. C'est parce qu'on me l'a demandé que j'ai écrit, et j'ai d'abord dit non. Alors pourquoi j'ai dit non ? J'ai dit je ne suis pas spécialiste, je n'ai jamais travaillé particulièrement avec les personnes âgées, alors franchement, je ne vois pas quelles compétences j'ai pour parler de ce sujet-là. Et puis c'est justement parce que je n'ai pas de compétences que j'ai décidé d'écrire. Parce que j'ai toujours soutenu dans ma vie que... la vieillesse et la mort font partie de la vie. Et que, et ben du coup, je me suis dit, et puis que ce n'était pas une affaire de spécialiste, que vieillir, on peut avoir des maladies, mais que vieillir n'est pas une maladie, et que la mort est l'aboutissement normal de notre vie humaine. Et puis que la mort devrait être intégrée à la vie. Et qu'on puisse en parler avec les enfants, qu'ils puissent être présents dans ces moments tout autant que dans les moments de joie. Donc j'ai soutenu tout ça toute ma vie. Alors quand j'ai dit non en disant que j'avais aucune compétence, je me suis dit « mais je suis en contradiction avec moi ». Puisque je dis que ce n'est pas une affaire de spécialiste. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit. Que j'ai écrit pour témoigner un petit peu de ça. Alors, je n'ai pas fait un livre scientifique. J'ai fait un livre un peu de témoignage, une espèce de patchwork où je pioche aussi bien dans ce que j'ai vu dans le train que dans la rue, que au supermarché, que dans ma profession, pour raconter un certain nombre de choses. Alors, peut-être dans le temps qui m'est imparti, vous m'entendez là, ça va?
Bon. Oui.
Bon. Donc, comme vous êtes de côté,
je sais pas les autres.
Comme vous êtes de côté, je ne me rends pas trop compte.
Non, mais moi, j'entends bien.
Voilà.
Et c'est les autres, je ne sais pas.
Alors, dans ma façon d'aborder la vie et la mort, et mon travail et l'ensemble des choses, il y a deux certitudes qui ont été très importantes pour moi et qui sont vraiment ancrées dans ma foi chrétienne. C'est l'une, que rien n'est jamais fichu. Alors ça, moi, on me dit que je suis d'un optimisme béat, peut-être. En tout cas, la vie m'a donné raison. Et je crois que que n'importe qui et à n'importe quel âge est susceptible d'évoluer et de changer, quand on est malade, qu'il y a des façons et un moteur qui peut être remis en route, même dans des cas difficiles. Donc ça, que jamais rien n'est totalement fichu. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire, hein, mais qu'il y a toujours au moins partiellement un possible. Et puis la deuxième certitude, c'est que tout être, quel qu'il soit, mérite le respect, quelle que soit son origine, quel que soit son âge, quel que soit son état, et que quelqu'un de grabataire mérite autant le respect que moi qui suis en train de vous parler, ou n'importe lequel d'entre vous. Donc, moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir fait des efforts pour penser des choses comme ça. J'ai le sentiment que j'ai baigné dans ça par ce qui m'a été transmis. Alors, peut-être une des choses aussi que j'aurais à cœur de dire, c'est surtout transmettre des choses de ce qui est important pour vous, pas en faisant des grands discours moralisateurs, hein, mais en juste parlant de ce qui est important, de ce qui donne sens à votre vie. Par rapport au bien vieillir, ben, ça ne s'invente pas quand on arrive au troisième âge. Ce n'est pas tout d'un coup qu'il faut se dire « mais maintenant j'arrive au troisième âge, je vais faire tout ce qu'il faut pour bien vieillir ». Je crois que ça se prépare de toujours. Alors il y a même des tout-petits là, et même un petit à naître. Eh bien, je crois que ça se prépare d'entrée, et que plus on intègre en tant que parent l'idée que tous les âges ont de la valeur, l'idée que tous les individus ont de la valeur, l'idée aussi est qu'on construit progressivement un certain nombre de choses, et très petit, eh bien on prépare nos enfants à pouvoir bien plus tard, un jour, vieillir. Alors, je crois que plus les jeunes côtoient des personnes d'un autre âge qui ne passent pas leur temps à dire que c'est épouvantable d'atteindre un certain âge, mais qu'on peut voir épanoui, et plus on ancre chez ces jeunes l'idée, eh bien, que la vie se poursuit et peut trouver du sens jusqu'à la fin. Alors moi, je dirais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, puisque j'ai connu mes quatre grands-parents, Le premier est mort, j'avais 17 ans, donc je les ai bien connus, j'ai partagé des choses avec eux. Et aucun n'a, je dirais, mal vieilli. Ils ont tous été des vivants, et des vivants jusqu'à la fin. Et de même que par rapport à la mort, j'ai été présente à la mort de mes deux grands-mères, présente physiquement au moment de leur mort. J'ai été présente à celle de mon père, à un certain nombre d'autres. Et je dirais que là aussi, c'est un privilège. C'est un privilège d'avoir pu accompagner, dire au revoir. Et que c'est une toute autre façon que lorsqu'on est dans un contexte où on vous dit ah, surtout, il ne faut pas que... moi, je pense que souvent, hein, en tant que psychiatre, on m'a dit par exemple... Est-ce que si un enfant veut voir son grand-père, sa grand-mère ou son père ou sa mère décédé, est-ce qu'il faut l'amener ou au contraire le laisser à l'écart? Alors là, je suis vraiment catégorique. Si un enfant demande à participer à l'enterrement de quelqu'un de ses proches, si un enfant souhaite... aller dire au revoir à un mourant, si un enfant a envie d'aller voir le corps de quelqu'un qui vient de mourir, c'est à accompagner, il ne faut pas le laisser seul. Mais je pense que c'est extrêmement positif. Mais je pense qu'il ne faut pas le contraindre. Hein? Vous voyez la différence quand même. Hein? Je pense que c'est important... si on croit vraiment que la mort fait partie de la vie, alors il n'y a aucune raison d'éloigner les enfants. Et j'ai eu, moi, en tant que psychiatre, des exemples tellement dramatiques d'enfants qu'on a écartés de la mort de leurs proches et qui s'en sont fait une image encore beaucoup plus terrorisante que ce qu'on voulait éviter. Par exemple, un qui m'a dit que pendant des mois, lorsqu'il avait 7 ans, lorsque sa mère est morte, que pendant des mois, on lui avait dit « elle est partie ». Il s'était dit « je suis tellement méchant que c'est pour ça qu'elle est partie ». Et il l'attendait, et comme elle ne revenait pas, il s'est dit « mais vraiment, elle ne reviendra plus parce qu'elle ne m'aime plus ». Et ça, c'est le plus terrible pour un enfant, hein? Beaucoup plus que d'être accompagné dans « ma mère est morte parce qu'elle était très malade et qu'on n'a pas réussi à la sauver ». Vous voyez comment des fois, en croyant qu'on fait bien, on peut faire encore plus de tort. J'ai un œil sur l'heure là, puisque c'est 20 minutes, donc je ne veux pas...
C'est pas la loi d'aimer des personnes.
Quoi?
C'est pas la loi d'aimer des perses.
Non, mais j'essaie de me tenir dans le créneau de ce qui m'a été donné. Peut-être juste dire aussi que il me semble que un jour j'ai été interviewée par une journaliste, elle m'a dit votre livre il est subversif. J'ai dit bon. Elle me dit « oui, vous allez à l'encontre de tout un tas de choses, et c'est vrai. » Parce que quand on parle de bien vieillir, elle me disait « j'ai lu dans le train votre livre, et quand les gens me voyaient lire ça, ils me regardaient en se disant « mais elle est un peu malade, pourquoi elle veut... » Bon. Et en général, quand il y a un livre qui sort sur bien vieillir, c'est « comment rester jeune ?» Hein? Les 9 dixièmes des livres, c'est comment rester jeune. Alors moi je m'inscris en faux comme ça, contre ça. Je pense que bien vieillir, c'est bien vivre chaque âge de la vie et être vraiment dans l'âge que l'on a. Alors ça s'inscrit à contrario d'un certain nombre de choses. Et ça veut dire que on donne plus de valeur à l'être qu'à l'avoir ou au faire. Alors je vais vous raconter une petite histoire que je raconte dans mon livre. C'était au supermarché. Je rencontre une de mes amies et puis on commence à papoter et ses enfants adolescents, ils étaient là, ils disaient 2, 9, 7, 16. Alors je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites ? Ah ben ils notaient les filles qui passaient. Voilà. Alors je leur dis, ben j'ose pas vous demander quelle note vous me mettriez. Alors ils me disent, oh toi, mais tu es même plus côté à l'Argus. Bon. Alors dans ce cas-là, on encaisse. On n'est plus côté à l'Argus. Bon, mais c'était avec affection, hein. C'était des ados avec lesquels on s'aime bien. Voilà, et ils ont raison, je suis plus cotée à leur Argus, heureusement, puisque je ne suis plus parmi ceux qui peuvent être l'objet de désirs de leur part, et c'est très bien comme ça. Mais ça veut dire que souvent dans notre société, on fait attention à l'apparence. Alors quand on a 15 ans ou 16 ans, ils ne sont pas restés comme ça, hein. C'était il y a quelques années. Et heureusement, ils ne sont pas restés à noter les filles qui passent. Mais c'était à une époque. Bon, mais je crois que notre société met beaucoup en avant la jeunesse, la beauté, la richesse, et que ce ne sont pas ces valeurs-là qui sont fondamentales. Et que si on met notre identité dans des valeurs comme ça, mais toutes ces valeurs, on est amené à les perdre. Alors que si notre valeur est du côté de l'être, mais ça, on peut le garder pour toujours. Donc, il y a là, puis notre société de consommation, on répare pas, on jette. Ce qui est vieux, on le jette. Que ce soit les objets, que ce soit les amours, que ce soit beaucoup de choses. Et je crois qu'on a à retrouver notre valeur, parce que si on continue vraiment dans ce style de valeur, ben on se prépare un avenir qui n'est pas des plus alléchants. On dit souvent que les jeunes ont peur maintenant de la vie. Je crois que les adultes montrent souvent une image de la vie qui ne donne pas envie d'y rentrer dedans. Alors, il y a des jeunes et il y a des vieux ici. Essayons tous autant qu'on est de donner une image de la vie qui puisse faire penser aux plus jeunes que nous qu'elle vaut la peine d'être vécue. Puis notre société est souvent dans le tout, tout de suite. Or, pour construire quelque chose de solide, il est important de donner place au passé, au présent et au futur, de conjuguer tous les temps. Et souvent on croit, alors là je m'adresse plus aux jeunes parents, on croit que plus on donne et mieux c'est. Non, je peux vous dire que le trop plein de ce qu'on donne ne permet pas aux enfants, quand on devance tous leurs désirs qu'ils ont vraiment trop, et bien ça a presque les mêmes effets que quand ils n'ont pas assez. Il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à construire bien. Le fait de pouvoir différer, de pouvoir imaginer, de pouvoir attendre, de pouvoir rêver. Quand on a trop matériellement, on perd ces capacités-là. Heureusement, souvent les enfants ont quand même beaucoup de possibilités et on les voit quand même jouer avec trois bâtons alors qu'ils ont des tas de jeux à côté, heureusement. Bon, je ne vais pas vous raconter tout parce que sinon ce serait trop long. Peut-être juste quelque chose autour de la solitude, parce que beaucoup de personnes âgées parlent de cette solitude difficile. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui se construit déjà pour une bonne partie très très tôt dans la vie. La capacité d'être seul. Et la capacité d'être seul, elle a ça d'étonnant, c'est qu'elle se construit dans le lien d'amour. C'est parce qu'on est dans un lien auquel on fait confiance qu'on va pouvoir construire le fait d'être seul sans angoisse. Avec les tout-petits, comme la petite fille qui est là, eh bien, c'est là qu'on commence à construire ça, quand on commence à s'éloigner dans la sécurité de la proximité des gens dont on sait qu'ils veillent sur nous. On va un peu plus loin, on vient, on appelle, on montre, et puis on repart, on explore. C'est ce que nous, dans notre jargon psy, on appelle les figures d'attachement et la sécurité de base. Quand un enfant construit sa sécurité de base, ben je peux vous dire que les enfants qui ont construit une bonne sécurité de base, qui leur permet à la fois d'être rassurés et à la fois de pouvoir explorer et d'oser la vie, c'est un atout majeur pour toute leur vie. Et ça, on va le retrouver sous une autre forme au moment de la vieillesse, au moment où on est effectivement, où on perd un certain nombre de liens, par l'éloignement, par la mort, etc. Et ou bien cette solitude est un désert, ou c'est une solitude habitée, et ça change tout. Alors peut-être pour terminer autour de ça, le psychanalyste catholique Denis Vasse a écrit quelque chose de très intéressant, parce que chaque fois que je faisais quelque chose là-dessus, on me demandait quelle différence je faisais entre solitude et isolement. Alors j'ai cherché dans les dictionnaires, dans mes bouquins, et je ne trouvais pas de choses vraiment intéressantes. Et j'ai trouvé ça dans Denis Vasse, qui parle de l'étymologie des mots, où il dit l'isolement vient du mot isola, l'île. Hein? Une île, et puis il y a la mer autour. Et le mot solitude vient du mot latin solium, le seuil de la porte. Alors c'est très très intéressant ça. Et il dit quelque chose, je ne l'ai pas noté, c'est comme la solitude, c'est comme si on est sur le seuil et que la porte peut être ouverte ou fermée, mais peut s'ouvrir, soit pour qu'on sorte, soit pour que quelqu'un rentre, est ouverte à l'attente, l'attente. Et alors là, c'est une solitude habitée, c'est pas le désert, à condition qu'on ouvre sa porte. Et plus on l'ouvre tôt, à la fois pour sortir et pour faire rentrer, et mieux c'est. Voilà, on s'arrête là. J'ai pas abordé l'ensemble du sujet, loin de là, mais bon, ce serait trop vaste.
Très bien, merci. Alors maintenant la parole est au public, voilà, si vous avez des questions, des remarques, des expériences ou autres à faire partager, c'est le moment.
Moi, je voudrais vous remercier pour quelque chose que vous avez écrit dans votre livre, si mes souvenirs sont bons. Je crois que vous relatiez un fait, un jeune homme qui vous avait trouvé belle avec vos cheveux blancs. Mes souvenirs sont bons, c'est ça. Et j'avoue que ça fait du bien de... Je vous ai trouvé courageuse de l'écrire. Et ça m'a fait beaucoup de bien. À l'heure où la mode est au peinture. On peut avoir un conjoint qui n'est pas du tout pour les peintures. Et c'est vrai qu'on est dans le monde du travail. On peut passer un peu pour un garde si on n'a pas de coloration. Je le dis parce que j'ai vécu. Et ça m'a fait beaucoup de bien de voir que vous avez le courage de l'écrire. Après tout, je me suis dit, la parole, il est dit d'honorer les cheveux blancs. Comment peut-on le faire s'il n'y a plus de cheveux blancs? Voilà, j'avais ça à partager.
Alors, peut-être juste quelques mots là-dessus. Je ne les ai pas toujours eu blancs. Je les ai teints. Et je les ai frisés, défrisés, refrisés. J'étais très frisée quand j'étais petite. Et après, je les ai défrisés. Et puis après, j'étais contente qu'ils soient frisés. Bon. Je crois que ces choses-là, c'est important de faire ce qui a sens pour nous. Moi, je n'en ferai pas une généralité. Mes enfants n'ont pas aimé que je me laisse les cheveux blancs. Et au moment où je l'ai fait, ils me disaient, mais enfin, et puis maintenant, tout le monde est habitué. Et madame raconte, c'était trop joli. C'est vrai qu'à moi, ça m'a fait du bien. Si je raconte, c'est parce que ça m'a fait du bien. J'allais au collège Diderot à Nîmes, qui est un collège de la ZUP, et il y a un grand escalier pour monter pour une réunion à midi. Et il y avait un groupe de garçons qui descendaient l'escalier, et moi je montais. Alors, au milieu de l'escalier, il y en a un qui s'arrête net, et il me dit, madame, je peux vous dire quelque chose? Bon, j'ai dit, ben oui, mais je ne savais vraiment pas ce qu'il allait me dire. Et il me dit, ah, que vous avez de beaux cheveux blancs. Alors je suis restée, comme on dit, comme de rondes frites, hein, au milieu de l'escalier, mais les copains encore plus sciés que moi. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui te prend? Tu es malade? Et alors il a dit, ben non, je le pensais, alors j'avais envie de le lui dire. Et voilà, on s'est séparés comme ça, mais moi ça m'a fait du bien. Et ça montre que c'était un garçon de 14 ans, hein. Enfin, je ne lui ai pas demandé son âge, mais c'est... Que eux aussi ça leur fait du bien de voir des personnes qui sont de notre âge et qu'ils ont... Ben, on s'était souri, enfin, moi je montais l'escalier, voilà. Et que des fois dans nos efforts de séduction, ça peut être difficile aussi, parce que j'ai souvenir d'un autre escalier qui était mon premier jour de travail à Nîmes, à la Villa Blanche-Perron. Je commençais mon premier jour comme psychiatre. Je monte le grand escalier et une fille adolescente en descendait. Bon, moi, je lui fais mon sourire le plus charmant et je lui dis bonjour. Et elle me dit, ta gueule, je t'ai parlé, toi? J'ai dit, bon, nous allons voir comment c'est finalement. Bon, après ce premier contact difficile, je ne me suis plus mis dans la séduction comme ça. Et j'ai pensé qu'elles étaient à apprivoiser, et moi aussi, et on a pu le faire hein, après. Mais ce premier contact, il était un peu raide. Hein.
Vous voulez dire autre chose?
Oui, vous êtes psychiatre, vous êtes chrétienne. Est-ce que dans la pratique de votre métier, vous avez été amenée, sans parler de bien vieillir, ou même de la mort, ou de la souffrance avec des collègues, en ayant la liberté d'y apporter un éclairage à la lumière de la parole, ou est-ce que les collègues sont opposés ou
avec aussi des collègues ou avec
oui,
des patients?
Je ne sais pas comment vous avez pratiqué, si vous avez pratiqué dans une structure en tant que psychiatre.
J'ai pratiqué dans des maisons d'enfants, un peu à l'hôpital et beaucoup en libéral. À ce niveau-là, lorsqu'on reçoit quelqu'un, on est tenu à une neutralité. Maintenant, il m'est arrivé de demander à quelqu'un est-ce que je pouvais lui parler d'une façon plus personnelle s'il m'y autorisait.
Et avec des collègues, des confrères?
Alors, avec des collègues, oui. Parce que Ben, les collègues savaient que j'étais chrétienne. En plus, mon mari est pasteur, donc était pasteur. Donc, les gens le savaient. Et par rapport aux gens qui venaient me voir, par exemple, je me souviens d'un homme qui est venu et qui m'a dit longtemps après qu'il ait commencé, qu'il était venu parce qu'un de mes collègues lui avait dit que j'étais chrétienne. Et il ne m'en a parlé qu'au bout de longtemps, en me disant « je voulais d'abord vérifier que vous étiez capable de m'entendre sans ramener ça tout de suite ». Et c'est quand il a vu que j'avais pu l'accompagner le mieux que je pouvais, mais sans lui imposer quelque chose, qu'il m'a dit « mais je suis venue pour ça, et maintenant j'aimerais qu'on en parle ». Par contre, par rapport aux collègues, ben, il le savait, donc ça s'est arrivé qu'on en parle, avec certains plus qu'avec d'autres. À certains, ça semblait bizarre, à d'autres, peut-être bizarre, mais il y a aussi des collègues qui, dans des moments difficiles, m'ont dit « est-ce que tu peux prier pour moi ou pour mon enfant ?» Voilà. Parce qu'ils savaient que j'avais cet engagement-là.
D'autres questions, remarques ?
Isolement ou solitude, ce sont des mots que j'ai souvent entendus en maison de retraite, alors que les gens sont entourés par beaucoup de monde. Alors comment aider ces gens, ces personnes âgées, qui souffrent d'isolement ou de solitude ?
Alors moi, vous avez sûrement plus l'expérience que moi. Il me semble qu'il y a des choses à faire du côté de la personne et du côté des entourages. Parce qu'on peut être très avec plein de monde autour et n'avoir pas de vraies relations. Alors par rapport à la personne elle-même, peut-être réfléchir avec elle, l'amener un peu à parler des relations qu'elle a avec les autres. Alors ça rejoint quelque chose que j'avais noté sur mon papier et que je n'ai pas dit, qui est de l'importance de régler les choses et les conflits, et les rancœurs et les choses, de pardonner tout au fil de la vie. De ne pas laisser des choses dégrader les relations, parce qu'après on le retrouve, hein. Ce qu'on n'a pas réglé, on le retrouve un jour ou l'autre. Donc, et ces choses-là peuvent faire que des relations qui auraient pu exister sont de fait cassées ou extrêmement, on marche sur des œufs, tout le monde marche sur des œufs et on n'est pas dans la spontanéité, dans la liberté. Donc peut-être pour les personnes qui se ressentent très seules et où vous avez l'impression que ça pourrait ne pas être, de peut-être réfléchir avec elles. Pourquoi ? Que peut-être leur sentiment de solitude est lié à des choses qui ne sont pas réglées et qui rendent la relation difficile et pas spontanée. Puis par rapport à l'entourage, il y a quand même des choses importantes par rapport aux personnes qu'on aide ou qu'on accompagne. Je crois beaucoup, mais dès le début de la vie, que la parole donnée a une valeur immense et qu'il faut que c'est la parole donnée de la valeur. Et que quand on dit à quelqu'un « je viendrai te voir », il ne faut pas faire des promesses en l'air. Parce que dire à quelqu'un « mais je vais où y aller tous les jours et puis après on n'y va plus de 6 mois », la personne forcément se sent abandonnée. Et donc de réfléchir avant de proposer à quelqu'un ou de dire à quelqu'un « voilà, je vais faire ça », de réfléchir à ce qu'on est capable de tenir dans la durée. Et il vaut mieux aller voir une personne âgée une fois par mois et de la prévenir pour qu'elle puisse... C'était la vieille tante de mon mari qui disait « Pour que je puisse m'habiller le cœur. Dis-moi quand tu viens pour que je puisse m'habiller le cœur. » Je l'ai marqué ça parce que je trouvais que c'était trop joli. C'était une fervente de Saint-Exupéry. Et elle me disait « Mais dis-le-moi, comme ça j'y pense des jours à l'avance. » J'aime pas quand tu me dis, je sais pas, je viendrai peut-être là ou peut-être là. Alors j'y ai fait beaucoup plus attention après, pour justement qu'on puisse donner cette possibilité d'attendre. Mais pour attendre, il faut être sûr que ça viendra. Si on n'est pas sûr que ça viendra, alors on n'attend plus parce qu'on est trop déçu. Donc ça, pour les gens qui accompagnent, et y compris pour les familles, c'est important de les sensibiliser à ça, au fait de pouvoir avoir une parole à laquelle on peut se fier. C'est clair ?
C'est mon drame que je vois presque au quotidien, encore aujourd'hui. C'est des personnes croyantes qui vivent, malgré l'espérance chrétienne, très mal cette perte. Et c'est une question un peu vaste, je ne sais pas, mais je me dis, est-ce qu'on a bien prêché l'évangile parfois, si on s'est trompé en prêchant un évangile de l'épanouissement ou un évangile de l'espérance, enfin, je ne sais pas, c'est comme une sorte de prise de conscience que les gens ont été trompés quelque part. Ils ont cru peut-être que la foi allait les rendre vaillants, et puis ils se rendent compte que, bon, par exemple, ce matin, je parlais avec une personne qui a 90 ou 19 ans, qui était pianiste, organiste, et qui m'a raconté avoir joué dans les temples et encore au mariage de ses petits-enfants. Malheureusement, ses mains sont déformées, donc elle ne pouvait plus jouer. Et elle rumine une révolte insupportable contre le fait de ne plus pouvoir jouer du piano et de ne plus pouvoir non plus faire des travaux manuels, alors qu'elle était très douée, au point de vouloir mourir. C'est-à-dire, en fait, de vouloir se suicider. En tous les cas, qu'on lui pratique une euthanasie active. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qui cloche, quoi ? Entre le fait d'avoir été une chrétienne active et finalement de mal vieillir quand même, et ça fait un peu peur. Oui. Il y a quelque chose qui cloche, quoi.
Alors, bon, moi, dans l'exemple là qui nous est donné, peut-être que... Alors là, ça rejoint une autre dimension, que son identité entière était contenue, peut-être que ce n'est pas au niveau forcément de la foi, mais peut-être du fait que son identité entière était contenue dans son statut de pianiste. Et que là aussi, je crois que c'est important de faire percevoir et de développer chacun de nous des choses diverses. Nous avons des richesses qui ne sont pas uniquement celles qui sont, je dirais, bien visibles ou qui nous font bien voir de ceux qui sont autour. Si on est organiste, c'est quand même pas rien, surtout si on fait des concerts, des choses... Mais peut-être on est aussi un peu piégé si on se met tout entier là-dedans. Et je crois que c'est très très important de développer des choses diverses. Moi, je me suis fait beaucoup de soucis pour ma mère quand elle a pris sa retraite, parce qu'elle était prof, elle était très investie dans son travail, elle faisait des tas de choses, puis avec mon père, et quand ils ont tous les deux pris leur retraite, je me suis dit, maman qui est active comme tout, ça va être terrible. Et bien, je me suis trompée du tout au tout. Elle s'est mise à peindre, elle s'est mise à faire toutes les choses qu'elle aurait aimé faire et qu'elle avait un peu laissé de côté parce qu'on était quatre enfants, parce qu'elle avait un travail professionnel, qu'elle aidait mon père aussi et qu'entre tout, elle n'avait pas de temps pour elle. Et bien, je l'ai vue s'épanouir de façon impressionnante. On a tous de ses œuvres, de peinture sur soie, des lampes, des tas de trucs, et on était très fiers et très contents. En plus, c'est beau. Bon, ben, on peut développer d'autres choses. Alors, quand on ne l'a pas fait, ben, je crois qu'on peut encourager la personne à essayer de découvrir que peut-être elle a d'autres choses qu'elle n'a pas développées et qui pourtant sont en elle. Le vieil oncle de mon mari est encore allé au club de sculpture sur bois 8 jours avant sa mort à 95 ans. Bon. Alors, par rapport à la dépendance et aux diminutions physiques, finalement, ce n'est pas les diminutions physiques qui entraînent le plus la dépendance. C'est la position psychique qui est celle de la personne. Quelqu'un peut être sur un fauteuil roulant et même dans un lit et être encore vraiment acteur. Il a besoin de plein d'aide. Mais au jour d'aujourd'hui, on en a quand même pas mal. Et puis si l'entourage est présent, quelqu'un peut rester à domicile même en ayant des handicaps graves. Alors que si son psychisme fonctionne bien. Par contre, quand ça bascule sur le plan psychique, ou que la personne pense qu'elle n'est pas en mesure de gérer encore sa vie, alors là, ça bascule vers la dépendance. Enfin, je pense que vous qui êtes médecin, vous devez voir ça aussi. Qu'à niveau égal de handicap physique, on peut avoir quelqu'un qui ne fait plus rien et qui est entièrement dépendant, ou quelqu'un qui est encore vraiment acteur de sa vie. Alors, par rapport à... il y a le côté de la personne qui vieillit, et puis il y a le côté de l'entourage. Et je crois que l'entourage, parfois, favorise que la personne ne puisse plus être acteur de sa vie. Et alors là, moi, je voudrais aussi... la vie est toujours un risque. Quand je vois que dans les écoles maternelles, on peut parfois... supprimer les toboggans parce que c'est trop dangereux et que les enfants pourraient se blesser, et où c'est qu'on va, je veux dire, si ils peuvent plus jouer au ballon ni aux billes parce qu'ils pourraient glisser dessus, enfin ils peuvent plus jouer à trapette parce qu'ils vont se rentrer dedans, et puis après ils prennent des risques d'autres parce qu'ils ont envie de dépasser tout ça. Et ça me semble vrai du début à la fin de la vie. Et je crois que parfois on dit à nos personnes âgées, mais tu te rends compte avec l'équilibre que tu as, ne sors plus faire les courses, je vais aller te faire les courses. Eh bien, il y a quelqu'un que je connais là qui sort tous les jours chercher son père. Si vous le voyez, il tremble comme ça. Mais c'est sa sortie qui le rend joyeux. Et c'est quelqu'un qui a 95 ans, le jour où il tombera, je crois que ce sera la fin. mais au moins il aura vécu jusqu'au bout. Il sort, il va chercher son pain en tremblant comme ça, il s'assied chez la boulangère, il papote avec tout le monde et puis il repart chez lui. C'est sa sortie de la journée et il est heureux. Ben, je ne vois vraiment pas pourquoi on l'empêcherait de faire ça. Et s'il se casse le col du fémur, eh ben, tant pis, ça valait le coup. Pas de se casser le col du fémur, mais de continuer à vivre. Alors, qu'on mette des sécurités, hein, les appareils là, qu'on parle au cou, ou les bracelets qui permettent d'appeler si on est tombé, c'est en tout cas une sécurité pour l'entourage. Hein. Je crois que ça tranquillise. Moi, ma mère était seule jusqu'à sa mort à 93 ans et demi. Et ben, on était plus tranquille de savoir à l'oublier hein, de temps en temps. Mais enfin, on était plus tranquille de savoir que si elle tombait, en plus elle allait faire son jardin, que si elle tombait, elle puisse appeler quelqu'un. Mais je crois qu'il faut laisser vivre. Alors ça, et puis dans les maisons de retraite, hein, là, il y a des choses, faute d'amener quelqu'un aux toilettes, qu'on le laisse attendre 2 heures alors qu'il ne peut pas y aller tout seul, et ben, au bout de 2 heures, il l'a fait sur lui. Et puis on lui met des couches, et puis au bout de 15 jours, il est incontinent alors qu'il l'aurait ne pas l'être. Alors ça je crois que c'est des choses dont il faut prendre conscience et essayer de... Alors là, les bénévoles peuvent aider aussi dans les maisons de retraite pour aider le personnel qui est insuffisant à accompagner. Et la vieille tante dont je parlais, l'année qui a précédé sa mort, puisqu'elle est morte en juin dernier, moi, ça m'a beaucoup chagriné parce que même pour aller aux toilettes, moi, j'arrivais plus à l'amener toute seule. Et le personnel refusait que je les aide. Alors, il fallait qu'ils soient deux parce qu'un seul n'y arrivait pas. Et moi, je disais, mais je suis là, je peux aider. Ah non, c'est interdit. Alors, je dis, mais si c'est moi qui prends la responsabilité, si elle tombe, on ne va pas vous faire un procès. C'est moi qui ai dit que... Et non, hein. Et comme il n'y avait qu'une personne pour le personnel, et ben elle attendait pendant 2 heures, et au bout de 2 heures, elle n'avait pas pu tenir. Voilà. Alors ça, c'est dramatique, parce que c'est aussi une image de soi qu'on détruit. Je veux dire, quelqu'un qui se fait, et puis on dit des couches, je veux dire, au moins dire des protections, c'est déjà un petit peu plus... Enfin, il y a là aussi des choses sociales et où chacun de nous peut essayer, dans une petite mesure, d'infléchir quelque chose.
Est-ce qu'il y a encore une remarque, une question ? Merci d'être venu.
Je veux peut-être partage. Juste dire une chose encore, c'est que le rapport des personnes âgées et des adolescents est particulièrement bon, parce que les adolescents n'ont pas, et les enfants plus petits, mais même les adolescents n'ont pas de compte à régler avec la génération d'en dessus. Et ça, c'est une très grande richesse. Et moi, j'encourage vraiment les personnes qui sont grands-parents, voisins, etc., à oser être là et puis dire ce qui donne sens à leur vie, de transmettre des histoires du passé, des choses. Cette transmission, elle est vraiment très, très importante.
Voilà. Merci. Bien, pour ceux qui le souhaitent et qui veulent avoir plus de renseignements sur ce sujet, vous pouvez trouver le livre de Monique de Jetlache ici sur cette table ou dans la librairie.
qui a pour titre donc « Bien vieillir » et qui reprend le thème de la conférence de ce soir. Je vous rappelle aussi que la prochaine rencontre au coin du livre, ce sera le 23 avril. Nous recevrons Marianne Carbonnier-Burckhardt, qui est une grande figure du protestantisme français, qui est aussi la descendante d'Edmond Hugues, qui est un des fondateurs du musée du protestantisme français, hein, un des fondateurs du musée du désert, avec Franck Puhaut. Et nous allons fêter cette année le centenaire de la fondation du musée du désert. Et Madame Carbonnier viendra donc nous parler le 23 avril du musée du désert, hein, de sa création. On connaît souvent le nom, mais on ne sait pas comment il est né, qui l'a créé, on ne sait pas dans quel but, quels objectifs. Et surtout, ce que l'on connaît encore moins, c'est son évolution prochaine, puisqu'il y a quand même des projets assez importants en vue de faire de ce musée un musée plus conséquent et plus attractif. Donc ça, c'est la prochaine rencontre au coin du livre. Et puis, la prochaine conférence, ça sera le mercredi 17 mars à la médiathèque, à l'amphithéâtre de la médiathèque d'Alès, à 18h30, avec Frédéric Rognon, qui viendra nous parler du grand Jacques Ellul, un personnage ô combien atypique du protestantisme français du XXe siècle. Et Frédéric Rognon donc, a écrit une belle biographie sur Ellul, et il viendra donc nous en donner une conférence. Voilà, vous pouvez retrouver aussi tous nos rendez-vous sur ces petits flyers que vous trouverez aussi à la librairie. Merci d'être venu. Pour ceux qui le souhaitent, il y a encore une collation de servie juste à côté. Et nous vous souhaitons à tous un bon retour. Merci.